quelqu'un qui s'appelle Francis Cohen, à qui j'avais donné le livre de Roger Giroux la veille, m'a appelé et m'a dit « Ce n'est pas un livre posthume ». J'ai le même sentiment et je crois que Roger Giroux, qui ne l'avait pas encore composé et qui ne savait pas, dans l'hiver de 1969, qu'il mourrait en 1974, savait, dans l'hiver de 1969, que le poème qu'il n'avait alors pas composé, mais qu'il connaissait déjà, le poème qui ne serait publié que 33 ans après sa mort, ne serait pas une œuvre posthume. Il le dit, je crois, dans une lettre qu'il écrivit mais n'envoya pas, dans l'hiver de 1969, à celui qui allait contribuer à faire que ce livre, alors pas encore composé, ne soit jamais un livre posthume. Je vais essayer de vous lire la moitié de cette lettre que Roger Giroux écrivit à celui qui est aujourd'hui, en 2007, l'éditeur de ce livre qui n'était alors, dans l'hiver de 69, pas encore composé. J'ouvre les guillemets. Je vous ai donc imprudemment promis de vous écrire. Nous étions, nous sommes, comme dans l'avant-dire d'une parole qui se projetait en une image essentielle de soi, inexistante et s'enivrant de ce non-être chaud qui justifiait encore à ses yeux la perfection de son antériorité. Mais à quoi faisions-nous donc, feignant l'innocence des sereines naissances, allusion ? De qui à qui prétendions-nous arracher des lambeaux d'un message, d'une vérité dont nous savons pourtant qu'elle fondrait aussitôt entre nos lèvres ? Son nom, le mot qui la recouvre, nous aurions rougi de nous le murmurer à la face, et je ne peux l'écrire ici, sous peine de me taire, à jamais, dans ma langue. Il baignera pourtant cet écrit de sa candeur éphémère, crépusculaire, et nous ne saurons pas si ce sera lumière qui se lève ou qui s'éteint. Et si nous le savons, ne savons-nous pas tout ? Nous observerons là-dessus le silence qui convient à la duplicité de ceux qui se parlent, s'écrivent à travers les barreaux de la parole, de l'écriture. Nous complotions donc, tels deux voleurs pesant les chances d'un fructueux cambriolage, un acte dont nous partagerions la culpabilité, d'autant plus légèrement que nul, sinon d'autres éventuels complices, ne nous en tiendrait rigueur. Vous m'objecterez ici sans doute que je vous compromets bien plus que vous ne le souhaitiez. Votre tâche s'étant bornée à suggérer le coup, acceptant tout au plus de faire le guet pendant que j'exécuterai seul le forfait. Mais ne voyez-vous pas que nous sommes également impliqués dans l'affaire et que rien de cela n'existerait si vous n'étiez pas là, de l'autre côté du monde. À portée de ma voix, lisant cela, vous le premier, le seul aussi, vous entrez dans le jeu dont vous avez proposé la règle que j'acceptais. J'accepte, mais acceptant, je me refuse à toute autre relation. Cette écriture instaurée par le dialogue, ce bref, si bref, si élémentaire fut-il, lui sera nécessairement fidèle dans sa substance même. Et désormais, ici, si votre visage, le son de votre voix, s'éloignent dans l'histoire, regagnent l'extérieur d'où ils sont apparus. C'est quelque chose de plus présent à vous que je révèle, qui a rejeté toute la chaîne des instants inutiles qui font reculer devant vous, à chaque instant. L'instant véritable que vous êtes, c'est votre lieu véritable de la relation à l'autre que, traqué, j'érige ici pour inaugurer le second dialogue, autrement dit la naissance du texte en question. Vous avez compris que, effaçant le personnage qui me gênait, c'est au poème que je parle, et non pas seulement à votre poème, voire à vous en tant que poème, fait ou non, ni même en tant que possibilité de poème, mais à celui que jamais vous n'écrirez hors du cercle que je trace sur la poussière blanche de cette parole. J'écris devant le feu, je regarde brûler, et ce qui brûle là, c'est la mémoire de ces mots que je jette au néant. Mots qui brûlent, et je brûle avec eux. Et cependant, je ne disparais pas. informe comme le feu, mais aussi impérieux, ce discours s'affirme en se consumant, en consumant ce qui le fait être, ce qu'il est. Et je ne vous vois plus, je vous ai jeté au feu, dans le crépitement des bûches et le ronronnement des phrases qui s'épuisent. Inopportune parenthèse où le propos s'éloigne. Loin, c'est cela. Toujours ainsi s'achèvent mes écrits, tels ces sentiers qui montent à travers bois, dans l'exaltation, vers quelques cimes, si modeste la soupçonne-t-on, quelques révélations du paysage à lui-même, et s'ouvre brusquement sur la banalité d'un grand pré où paît un maigre troupeau. Haute clairière, plus près du ciel que le village d'où l'on est parti, certes, mais qui ne comble pas l'attente, qui ne récompense pas la marche accomplie. Alors sourire, voir des yeux toute l'indulgence que ce ciel-là peut accorder, accepter le simple bonheur d'être venu là, faire retour dans les traces, et, s'efforçant de se réorienter, tenter ailleurs l'aventure. Temps mort. Mais c'est aussi cela, tuer le temps devant nous, à jamais de le dire. Cette lettre, ce refus que je vous adresse, interminablement, pour qu'enfin, avant la fin, vous vous en détourniez, vous qui n'existez pas, vous à l'inexistence de qui je m'adresse, pour que vous soit révélé le lieu de notre rencontre. Vous cessiez de prêter attention à ce bourdonnement, cette lassitude extérieure, là-bas, qui me fait signe, comme le fantôme de celle-là que j'ai cessé d'appeler, cette punition que je m'inflige. J'en veux rendre témoignage aux sources. Et si la jeune fille ne se lève pas son voile, qu'importe, son parfum nous guidera sur les allées de nulle part. Donc, voici, et pour commencer par le commencement, c'est-à-dire, oh, quelle musique, entre le pourpre sanglant du couchant, derrière la découpure des sapins, et l'orient de la lune ruisselante de lymphe, c'est-à-dire le déni de la mémoire, car naître, c'est d'abord oublier.